Rebecca, tu reçois maintenant Fanny Bunion, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et spécialiste des études sur le genre.
Et oui, bonjour Fanny Bunion, vous animez à 18h une conférence sur la vie et le combat d'une femme bretonne et ouvrière, Joséphine Pencalette. Alors, figure de la grève des sardinières en 1924 et première femme française élue à un conseil municipal, sa vie et son combat ont marqué l'histoire des luttes pour le droit des femmes. Elle décédera en 1972 à Douarnenez. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu ensemble sur sa vie pour mieux comprendre ensuite par la suite son combat ?
Oui, bonjour, merci de l'invitation. Joséphine Pencalette, c'est une figure qui incarne la condition des femmes en Bretagne, en fait, à la fin du 19e et au 20e siècle. Elle est née en 1886 dans un milieu populaire, famille nombreuse, famille de marins. Elle va partir en région parisienne où elle va se marier, où elle va avoir deux enfants. Son mari va décéder au début des années 1920 et donc veuve avec deux enfants à charge. Et bien elle va revenir dans sa ville natale, Douarnenez, dans les années 1923-1924. Et puis elle va devenir ouvrière de conserverie pour gagner sa vie, subvenir aux besoins de sa famille, et elle va rester dans cette condition ouvrière modeste jusqu'à son décès en 1972. Donc elle incarne ces femmes qui vont partir pour des raisons économiques, qui vont revenir aussi pour des raisons économiques, mais elle a un destin assez singulier au milieu de toutes ces ouvrières, effectivement.
Et justement, un destin singulier, puisqu'elle prend part à cette grande grève des peines sardines qui a lieu en 1924. Alors, est-ce qu'on peut explorer un peu dans quel contexte cette grève s'organise et quelles sont les revendications des ouvrières à ce moment-là ?
Alors, pour comprendre effectivement le contexte dans lequel émerge cette grève en novembre 1924, il faut savoir que Douarnenez, c'est une petite ville de 12 000 habitants. Et c'est ce qu'on appelle une ville champignon, un champignon industriel qui s'est développé de manière très rapide dans la deuxième moitié du 19e siècle à la faveur d'une innovation technologique, c'est-à-dire la mise au point des techniques de conservation des aliments qui n'existaient pas auparavant. On appelle ça l'apertisation. Et donc le développement de cette technique va faire que le littoral breton et atlantique aussi, mais surtout en Bretagne, va se doter de conserveries, alors de poissons, mais aussi de légumes, des petits pois, etc., qu'on va trouver tout au long du littoral. Donc c'est une ville qui s'est développée autour de cette industrie-là. Hein. La ville, elle compte une vingtaine de conserveries et on établit à peu près 3000 ouvrières qui travaillent dans ces conserveries au début des années 1920. Donc c'est une ville dont l'identité est vraiment marquée par cette économie. C'est un travail extrêmement pénible, très mal payé, dans lesquels les femmes sont surreprésentées. Les hommes sont plutôt en mer ou mécaniciens dans ces usines. Et c'est un travail très pénible parce qu'on manipule une matière première très fragile qu'il faut traiter quand le poisson arrive. On n'a pas les techniques de réfrigération qu'on connaît aujourd'hui, donc il faut traiter quand ça arrive. Donc les journées sont des journées à rallonge, très peu payées. Et Douarnenez, c'est une ville aussi qui est une ville communiste qui va pour la première fois élire un maire à sa tête en 1921, un maire communiste. C'est la première commune qui vote pour un maire communiste en 1921. Il s'appelle Sébastien Vély. Il décède accidentellement et c'est un autre communiste qui lui succède, qui s'appelle Daniel Leflanchec et qui est un personnage tonitruant et assez en couleur, borgne, tatoué d'un morovache sur la main par exemple, et qui va décider d'organiser et de participer à la structuration et au soutien de cette grève. Il va par exemple installer le comité de grève à l'intérieur de la mairie, ce qui va lui valoir une réprobation et d'être notamment mise à pied par la préfecture du Finistère pour avoir constitué un trouble à l'ordre public manifeste.
D'accord, donc c'est une grève qui est soutenue par le maire et qui est vraiment soutenue. Et quel rôle joue justement Joséphine Pencalette dans cette grève ?
Bien, Joséphine Pencalette, c'est une ouvrière parmi d'autres qui participe à la grève. C'est pas, contrairement peut-être à un certain mythe qu'on peut entendre ici ou là, une espèce de Louise Michel locale, c'est une ouvrière parmi d'autres qui s'est engagée pour défendre l'amélioration de ses conditions de travail et sa dignité du coup d'ouvrière. Mais ce n'est pas, il n'y a pas de leaduse à cette grève, c'est vraiment une grève collective. Et comme souvent l'histoire des femmes, et notamment les femmes de conditions populaires, on a peu d'éléments biographiques qui permettent de reconstituer leur trajectoire, mais on sait qu'elles ont participé avec donc à peu près 3000 femmes à cette grève qui dure de novembre 1924 au début du mois de janvier 1925. Donc c'est une grève qui dure, c'est une grève qui va être victorieuse, et c'est une grève qui est soutenue politiquement localement, mais aussi au plan national, puisqu'il y a des responsables syndicaux et politiques qui vont venir, des quêtes qui vont être organisées à l'Assemblée nationale pour soutenir les grévistes, puisque qui dit grève dit pas de rémunération, absence de salaire. Et c'est une grève qui va être très tendue. Alors, je ne sais pas si je peux dire un mot de la manière dont elle va se résoudre.
Bien sûr.
Elle se résout, donc elle va être victorieuse, mais elle ne se résout pas parce que les usiniers ont décidé d'accéder aux revendications des ouvrières. Elle se résout parce que la préfecture intervient pour dire aux usiniers, maintenant vous accédez aux revendications après qu'une tentative d'assassinat ait été commanditée contre le maire, Daniel Leflanchec, le 1er janvier 1925. Il y a des hommes de main qui viennent de région parisienne qui sont recrutés pour l'abattre, hein, pour faire cesser. Il est en quelque sorte le symbole de ce désordre politique et social dans la ville. Et donc ça se passe dans un café, le soir du 1er janvier. Il est touché à la gorge, par miracle. Il survit, mais voilà, la balle lui traverse la gorge, lui rafle les cordes vocales. Et suite à ça, eh bien, il y a un soulèvement vigoureux qui s'élève. L'hôtel dans lequel ces hommes de main séjournaient est saccagé par les partisans du maire. Et à ce moment-là, la préfecture, qui avait déjà tenté de résoudre le conflit en amont, cette fois intervient en disant... ça suffit maintenant, vous êtes allé trop loin, vous êtes sorti des bornes de la légalité, vous accédez aux revendications, sinon la situation va devenir complètement incontrôlable. Et donc c'est dans ce contexte que la grève devient victorieuse.
Et en quoi justement cette grève, on l'a vu, elle a été victorieuse, ça a marqué un tournant aussi dans l'histoire pour la lutte des femmes, mais aussi des ouvriers et des ouvrières par la suite.
Alors plus généralement, effectivement, c'est l'occasion de consolider le droit syndical, la liberté syndicale et la protection pour ce qu'on appelle le syndicat de la conserve, donc qui concerne tout ce secteur de l'alimentaire, qu'on appellera ensuite l'agroalimentaire en Bretagne. Ça entraîne une reconnaissance aussi du travail et de sa pénibilité avec une augmentation de la rémunération. Elle ne demandait pas grand-chose, elle demandait 25 sous d'augmentation, donc c'est un salaire complètement dérisoire à une époque où, pour travailler, les femmes ont besoin de l'autorisation de leur tuteur masculin, père ou mari. À une époque où il est légal de rémunérer les femmes deux fois moins que les hommes. Et à une époque où le travail de nuit dans les industries est interdit pour les femmes, sauf dans le secteur alimentaire. Donc on est dans un contexte, si vous voulez, ce sont les prolétaires des prolétaires, en quelque sorte, ces femmes.
Et par la suite, Joséphine Pencalette est élue au conseil municipal, donc son élection est soutenue par le Parti communiste en 1925, donc avant même que les femmes puissent voter et être élues. Alors comment c'est possible? Comment ça s'est passé?
Effectivement, il peut sembler très paradoxal qu'une femme puisse être élue sans en avoir le droit, et c'est pourtant ce qui s'est passé à Douarnenez et aussi dans une poignée d'autres villes en France. Hein. Moi j'en ai recensé 6 à ce jour. Le Parti communiste français n'est pas particulièrement féministe à l'époque. Hein. Dans le comité central, il y a une seule femme et qui défend des positions en faveur du droit des femmes, mais elle est en minorité parce que ses camarades considèrent que la question des femmes est une question secondaire, qu'elle pourra se résoudre avec l'avènement de la révolution prolétarienne, que les masses ne sont pas prêtes, et puis que, argument classique pour s'opposer au droit politique des femmes, que les femmes seraient du côté de la réaction et sous influence de l'Église, en particulier de l'Église catholique. Donc il y a cette hostilité, y compris au sein du Parti communiste, à l'égard des droits politiques des femmes. Mais le Parti communiste français, à l'époque, est vraiment dans un rapport satellitaire avec avec l'international communiste, avec le Comintern, qui est basé à Moscou, et qui a une antenne qui s'appelle le secrétariat féminin, qui est basé à Moscou et qui donne des directives sur la question des femmes dans tous les partis communistes du monde. Et le Comintern donne pour consigne de présenter des femmes aux élections, partout, y compris dans les pays où ce n'est pas légal. En pointant qu'il y a une brèche électorale, le code électoral de 1884 prévoit que pour les élections municipales, la préfecture, qui est chargée de vérifier la validité d'un scrutin, va s'assurer de l'éligibilité des élus après le scrutin. Donc en fait, rien n'empêche sur le papier des femmes de se présenter aux élections. Des féministes l'ont tenté déjà dès le début du XXe siècle, sans jamais parvenir à être élue. Mais là, Joséphine Pencalette, elle est en quatrième position, en qualité d'ouvrière d'usine. Et dans le contexte de Douarnenez, c'était pas difficile de faire élire une femme. Mais Charles Tillon, qui était jeune permanent syndical à l'époque et qui ensuite aura une carrière de ministre sous la 4e République, dit que le plus dur, c'était trouver une femme qui consentit à jouer ce rôle-là, à jouer les suffragettes. Et il ajoute que pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice, parce que c'était une source de tension, mais qu'une avenante veuve s'est dévouée. une avenante veuve, c'est Joséphine Penquette, qui avait participé à la grève, qui avait, dit-il, tenu le drapeau rouge, tenu la dragée haute sur le pavé douarnenniste. Et donc, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques une forme de disponibilité biographique qui est liée à sa situation conjugale. Elle a certes elle est veuve, elle a deux enfants, mais qui ne sont pas tout petits, hein, qui ont 7 et 14 ans. Et donc, elle va consentir en quelque sorte à cela. Et elle va donc être déclarée élue dans un premier temps. La préfecture va annuler son élection 15 jours après, mais elle va faire un recours, comme la plupart des autres femmes élues sur des listes soutenues par le Parti communiste. Et cet appel est suspensif, donc elle va siéger jusqu'à l'annulation définitive de son élection en novembre 1925. Donc en fait, on a une espèce de petite fenêtre d'opportunité qui est liée à ce code électoral qui permet de s'engouffrer dans la brèche. Et puis, la volonté du Parti communiste de mettre en avant des femmes sous contrainte, enfin sous consigne de Moscou, et en taisant au passage aussi l'engagement des suffragistes qui s'organisent en France depuis les années 1880 pour faire valoir les droits politiques des femmes. Donc c'est une manière aussi pour le Parti communiste de se donner le beau rôle, alors qu'en fait, ça va être un petit peu plus compliqué que ça.
En tout cas, une vie assez exceptionnelle pour Joséphine Penquette. Vous avez notamment écrit des articles à son sujet et vous êtes en préparation d'un livre. En quoi le combat de cette femme vous inspire et qu'est-ce qui, dans sa vie, vous donne aussi envie de la raconter et de diffuser un peu son parcours ?
Je pense que c'est intéressant parce que son cas offre, par rapport aux travaux d'histoire classique, un décentrement géographique. Qui souvent, il y a une forme de prisme parisiano-centré qui, en tout cas, renvoie à l'état d'un peu d'exception ou de cas particulier, ce qui se passe sur d'autres territoires que le territoire parisien. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'assez inspirant parce qu'en fait, il irrigue et il est symptomatique. Il est symptomatique aussi de ce que le Parti communiste veut mettre en avant comme étant son sujet politique, c'est-à-dire une femme, une ouvrière, en Bretagne. Et donc, c'est un symbole de... les futurs bastions dans lesquels le Parti communiste va s'ancrer dans les années 30 et 40. Mais Joséphine Penquette, et je terminerai là-dessus, elle a gardé beaucoup d'amertume de cette expérience, puisqu'elle a ensuite refusé de voter et dit toute sa vie, elle est morte en 1972, elle dit toute sa vie à ses enfants et à ses petits-enfants de ne jamais voter. C'est-à-dire qu'elle est restée communiste de cœur sur le plan de ses valeurs, mais qu'elle a trouvé que le jeu électoral était un jeu de manipulation.
Eh bien, merci. Pour en savoir plus sur la vie de Joséphine Penquette et la lutte des sardinières, on vous retrouve tout de suite à 18h dans l'amphi L2 à l'Université Rennes 2 pour une conférence sur le sujet animée dans le cadre de la Semaine de la Bretagne. Merci beaucoup, Fanny Bunion, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.